En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Bien, nous sommes un peu moins nombreux. Il y a des perturbations dans les transports en commun. Donc, Chaline m'avait prévenu qu'il serait en retard. Mais comment dire, la fine fleur est là, et en particulier les orateurs. Et donc, nous allons changer de milieu et nous embarquer avec d'abord Jean-Nicolas Corvisier, et donc vers la Grèce ou hors de Grèce, je ne sais pas. À vous.
Si l'obligation de se battre sur mer, soit pour se protéger d'un éventuel agresseur, soit pour se faire un passage, est vieille comme la navigation, il ne s'ensuit pas que nous soyons en présence d'une bataille, encore moins que celle-ci ait les caractéristiques d'une bataille navale prévue et pensée, et donc qu'elle obéisse à une tactique et à une stratégie. Contrairement au simple engagement, la bataille a pour but d'obtenir un succès marquant et, si possible, décisif. Qu'il y ait eu ou non destruction de l'adversaire, il convient donc qu'elle le prive des moyens de poursuivre la guerre, ou du moins sa guerre. Dans ce sens, sur Terre, la bataille existe dans le monde grec depuis au moins la réforme politique. Je ne reviendrai pas sur ce qui a été si bien dit par mon collègue et ami Jean-Christophe Couvagne hier. Mais peut-on en dire autant de la mer ? Si nous nous tournons vers les historiens anciens et si nous opérons le relevé de ce que l'on peut légitimement qualifier de bataille dans les combats qu'ils nous rapportent, au moins numériquement, le déséquilibre entre terre et mer est éclairant. Les premières batailles vraiment répertoriées se situent au tournant du VIe siècle. Dans la première moitié du Ve, le rapport terre-mer est de 3,5 pour 1. Dans la seconde moitié, de moins de 2 pour 1. Dans la première moitié du IVe siècle, de 2,5 à 1. Dans la seconde moitié du IVe siècle, de 3 à 1. Et au IIIe, IIe siècle, de l'ordre de 4 à 1. On voit très bien la façon dont le rapport tourne presque en faveur de la mer, en tout cas que la mer se rééquilibre, mais seulement au milieu du Ve siècle et pour peu de temps. De telles données sont indicatives, bien entendu, car les 5 historiens grecs utilisés pour constituer cette série ont des intérêts et une précision de récit différents, mais elles suscitent l'interrogation. Ce qui est en cause est-il le caractère plus ou moins décisif de la bataille sur mer ou sa spécificité par rapport à la bataille terrestre ? Selon l'opinion commune, la bataille sur mer n'a été au départ que le substitut de la bataille terrestre, l'abordage recréant les conditions d'un combat sur terre. La période classique aurait vu la naissance de la bataille numérique, cela correspondrait bien à ce que laisse entendre l'étude de fréquence. Mais que dire de la période hellénistique dans laquelle, nous dit-on, on serait revenu simplement à l'abordage ? Rien que cette interrogation incite à reprendre le dossier. Dans une certaine mesure, le déroulement d'une bataille navale se rapproche de celui d'une bataille terrestre, du moins dans nos sources. La phase la plus importante est la préparation. Quand la bataille est prévue et acceptée, il y a concentration des forces. La mise en ordre de bataille suppose des manœuvres et le choix d'un lieu dans lequel on puisse éviter d'être tourné et disposer d'un chemin de fuite. Avant de combattre, il y a sacrifice et prise d'hospice comme sur Terre. Évidemment, ce sont de petits animaux qui ont été embarqués. La victoire revient à celui qui reste maître du champ de bataille. Il aura le privilège d'ériger le trophée, évidemment sur Terre, en un lieu proche. Il lui reviendra également celui de nommer la bataille. Cette similitude entre la bataille navale et la bataille terrestre se retrouve également dans les récits. À la notable exception de Thucydide, lorsqu'il nous donne des détails, les historiens traitent la bataille de façon à peu près identique pour l'une et pour l'autre, sans dégager les spécificités du milieu marin. On notera d'ailleurs que la bataille navale ne pouvait fondamentalement heurter la conception de la guerre qui caractérise le plitisme. Le but à atteindre est que l'adversaire se reconnaisse vaincu, non sa destruction. Attendu que les batailles navales, du moins d'époque classique, se déroulent à proximité de la côte et que les Grecs savent nager, ce sont les bateaux qu'on détruit, non les rameurs, qui sont normalement des citoyens et qu'on ne cherche pas systématiquement à poursuivre ou à tuer. Toutefois, force est de constater que le milieu marin est très largement inadapté à la bataille traditionnelle. Pour pouvoir naviguer et combattre sur mer, il faut emmener son sol et son eau. Le sol sera nécessairement exigu, mais le terrain est particulièrement large et mouvant, puisque c'est la mer. Sauf quand la bonasse survient, La mer n'est jamais immobile, et surtout la Méditerranée. En haute mer, quand la houle est formée, elle détermine des creux moins importants que dans l'Atlantique, mais sur une longueur d'onde réduite et qui varie sans cesse. Pour donner les choses de façon très simple, on peut avoir 15 mètres de creux sur l'Atlantique, mais c'est comme ça, tandis qu'on peut avoir facilement 11 mètres, 15 mètres, c'est rarissime, sur la Méditerranée, mais la longueur d'onde, c'est ça. Avec, évidemment, une grande conséquence pour les navires. Il est donc vain d'espérer créer en pleine mer un ordre de bataille strict et de le conserver durablement. Va-t-on alors se battre près de la côte ? Dans cette mer fermée, les vents et courants s'entrechoquent, agissent souvent en sens inverse et changent tout au long de la journée. Pensons au fameux vent de Salamine. Mais on ne l'a jamais ressenti par la suite, ce fameux vent de Salamine que les sources nous indiquent. Là encore, l'ordonnance de départ se disjoint facilement et le risque d'être drossé à la côte est grand. Ainsi, fortune de mer est de beaucoup plus inconstante que fortune de guerre. D'autre part, à quelques exceptions près, Salamine, le champ de bataille peut s'étendre indéfiniment. Il n'a aucune limitation que le tracé d'une côte qui pourrait un navire et le principal danger. Où un navire chavire-t-il ? Beaucoup plus finalement sur la côte qu'en pleine mer. Le danger de départ du combat n'est pas forcément celui où il s'achève, pas plus que l'état de la mer. Conséquences de cet état de fait sur le déroulement de la bataille, eh bien, elles sont importantes. D'abord parce que la possibilité de manœuvrer en ligne ou de maintenir la ligne de combat avant le choc ne dépend pas seulement des hommes et de la discipline, d'autant que la ligne peut se déplacer sans qu'on n'y puisse rien, alors que le déport à droite d'une phalange optique est un fait connu et prévu des stratèges terrestres. Ensuite, parce que la durée du combat est variable et aléatoire, parce qu'elle ne dépend pas seulement de la résistance des hommes et des bateaux, mais de l'état de la mer. Une bataille navale peut donc devenir brutalement impossible sans qu'il y ait eu refus du combat ou bataille blanche. Elle peut durer peu sans résultat ou reprendre alors qu'on la croyait terminée. Enfin, parce que le caractère extensible du champ de bataille rend non seulement impossible de commander à l'audition, si tant est que dans le fracas d'une bataille politique ce soit possible, mais parfois, il est même impossible de commander à la vue. L'unité de commandement est donc nécessaire, indispensable, parce qu'il faut s'adapter plus encore que sur Terre à l'évolution du combat, doublée de celle de la mer, mais elle est encore beaucoup plus difficile à mettre en œuvre que sur Terre. On ne peut pas envoyer des estafettes si facilement. Dans ces conditions, l'historien ne peut que remarquer que la typologie des batailles doit être différente sur Terre et sur mer. Il notera aussi que la dépendance où l'homme est par rapport au navire introduit une variable nouvelle. Le premier bateau de guerre affecté uniquement à cet usage a été la trière. On sait que la trière classique est issue de la dière à laquelle on rajouta sur le plat-bord une rangée supplémentaire de rameurs dans une charpente en surplomb. Trois rangs de rameurs placés en quinconce afin d'occuper moins de hauteur. D'abord, partiellement pontée, la trière l'est entièrement à la période classique, du moins au niveau du second rang de nage, car le rang supérieur reste en surplomb et n'a normalement pas de protection spécifique. De toute façon, s'il y a protection, ce qui est rare, elle ne traverse pas le navire bord à bord. Très effilée, dotée d'une coque médiocrement écartée, ce qui lui permet d'afficher en moyenne 36 mètres de long pour 5,40 mètres dans ses dimensions extrêmes, 33 pour 3,06 mètres à la ligne de flottaison, la trière classique bénéficie d'un rapport largeur-longueur de 1 à 9, voire de 1 à 10, les trières athéniennes étant plus effilées encore que les autres. Ce qui peut être utilement comparé au 1 à 8 pour les autres bateaux de guerre de l'époque et 1 à 4 pour les bateaux de commerce. Ainsi, la trière peut atteindre 10 nœuds en alliant voile et rame, 7 à 8 à la rame seule, mais sur une courte durée. Toutefois, il sacrifie la stabilité à la vitesse. Son tirant d'eau n'est que du quart de sa hauteur sur l'eau, 2,50 m, et elle n'est lestée que par une quille extrêmement plate, de façon à réduire son poids, ce qui la rend médiocrement manœuvrante à la voile. De la même façon, l'éperon de bronze dont elle est dotée à sa proue, fait d'une seule pièce et qui n'est amovible que dans le cadre des arsenaux, la ralentit considérablement en marche ordinaire et risque de fatiguer les membrures. Ce n'est pas le lieu de revenir sur la construction de la trière, dont on sait qu'elle se fait sur bord des premiers. Il est en tout cas assuré que dans un état organisé en fonction de la mer comme Athènes, elle était programmée, systématiquement financée et surtout standardisée, ce qui permettait dans une certaine mesure de remplacer au plus vite les pertes en navire. pour les hommes. Rappelons que l'équipage normal s'élève à 200 hommes, dont 170 rameurs, même disposés en quinconce. Ils n'ont qu'une place réduite pour manœuvrer, moins d'un mètre. Les rames ont toutes 4,40 m de long, sauf celle un peu plus courte des 4 tranites extrêmes, 2 de la poupe, 2 de la proue. Et ces rames ne peuvent être utilisées que parce qu'elles attaquent l'eau sur un angle différent. Un entraînement systématique est indispensable pour parvenir à un résultat acceptable, comme l'ont montré les expériences actuelles de construction et de manœuvre d'une trière. Je pense au cas de l'Olympias que nos amis anglais ont réalisé et dont ils ont pu, à force de recherche, retrouver le fonctionnement précis. Au rameur s'ajoute le triérarque, qui a pu assurer sous forme de liturgie la construction et qui, de toute façon, assume l'entretien du navire, le cubernétès ou barreur, le proreus, vigie homme de proue, le kélostès, chef de cadence, une dizaine de matelots et un nombre variable d'épibates, soldats embarqués en service normal, une dizaine, en expédition extérieure, des techniciens navals. Il est clair que, contrairement aux navires qui l'ont précédé, la trière est un navire spécialité. Au combat, la trière peut atteindre dans les meilleures conditions 10 nœuds, mais cette cadence ne peut être maintenue que très peu de temps. Son efficacité est tout entière dirigée vers l'éperonnement. Là, le nombre important de rameurs est facteur de puissance, puisque la trière est à peine plus longue qu'une pentecôtère, mais la pentecôtère a 50 rameurs et la trière a 170. En revanche, en cas de choc latéral, elle se disloque rapidement. Hors du combat, elle manœuvre mal, ce qui la rend vulnérable aux tempêtes et aux coups de mer s'il fréquent en Méditerranée. Haute sur l'eau, peu lestée, elle ne supporte pas de changement de direction rapide. De plus, la charpente interne est réduite pour faire place aux rameurs. Tout au plus, un pont inférieur et un pont médian traversent-ils le navire d'un côté à l'autre de la coque, les bords n'étant pas reliés aux bancs de nage supérieurs. Ainsi supporte-t-elle mal les chocs, ses membrures se disjoignent rapidement, le bordé se disloque et le navire fait rapidement haut. Un entretien régulier en cale sèche est indispensable, faute de quoi la trière perd vite de ses possibilités manœuvrantes, comme le montrent bien les réclamations de Nicias lors de l'expédition de Sicile. Il sait qu'il lui est indispensable, mais il ne peut pas le faire, d'assécher et d'éventer ses vaisseaux. Et à l'inverse, un bateau qui n'a pas été mis à la mer depuis longtemps n'est plus réellement étanche. Enfin, n'oublions pas que la trière transporte sous un espace réduit un nombre considérable d'hommes. Conditions de vie donc difficiles, promiscuité entre 200 hommes qui ne sont responsables que de leur rame, leur coussin et leur courroie, selon l'expression de Thucydide, ça met les nerfs des hommes à rude épreuve et cela peut se retrouver au combat. Faire relâche est indispensable, très souvent, ne serait-ce que pour faire de l'eau. Comparaison, 6 à 8 litres d'eau par rameur au niveau des galères à la période moderne. Alors pour un équipage de 200 hommes, il suffit de faire le calcul. L'autonomie en eau est extrêmement réduite. Conséquence, d'abord on doit faire relâche souvent, mais en même temps, hors bataille navale, ce ne sont que quelques navires qui croisent, les autres étant au port. Il devient nécessaire de disposer alors d'un réseau de cités portuaires amies, la guerre navale suscitant l'impérialisme. On peut aussi relâcher dans des lieux abrités, tels que des embouchures de fleuves, les navires étant au mouillage à l'ancre, mais on court le risque d'un brutal coup de mer, l'ancrage par ancre-poids ou ancre-crochet ne permettant pas de s'agripper suffisamment dans les fonds marins. On peut enfin tirer au sec les navires en tout ou en partie, mais outre que l'opération n'est pas bonne pour la solidité des navires, on court alors le risque d'une attaque terrestre, comme ça pourrait être le cas pour Aegos Potamos, qui n'a pas nécessairement été une véritable bataille navale. Dans des conditions, il est évident que d'autres types de navires que la trière ont également leur place dans la guerre antique. Je ne vais pas les décrire aussi précisément, mais qu'il suffise de se souvenir que la pentecôtère, héritée du passé, est encore en usage. On en a encore en Sicile à l'époque de Denis de Syracuse, c'est-à-dire au milieu du IVe siècle. On sait qu'à côté, il y a des holcades, c'est-à-dire des navires de charge. On sait qu'il existe de petits navires qui serviront pour la course, mais qui pourront servir également à la guerre. Je pense par exemple à ces lemboi qui sont bien connus de l'époque hellénistique et ce sont les grands navires des pirates. Par conséquent, une expédition maritime d'envergure ne se fait pas uniquement à la trière. je coupe certaines choses de façon à rester dans le temps qui m'est imparti. En revanche, à ces navires légers s'est joint, dans le courant du IVe siècle, un type de navire nouveau, des navires de combat plus larges, dont le rapport largeur-longueur passe à 1 à 8, voire moins. Ce sont les tétraires, soit navires à quatre fils de rameurs sur l'avant et sur l'arrière, mais disposés à deux rameurs par rame sur deux niveaux. On atteint forcément, avec des rangs de rameurs superposés, une impossibilité matérielle. Alors, lorsqu'on parle de tétraire, ce n'est pas quatre rangs de rameurs superposés, mais une dière à deux rangs de rameurs, à deux rameurs par rame. Lorsqu'on parle d'une pintère, ce n'est pas cinq rangs de rameurs superposés, c'est une trière avec deux rameurs par rame pour deux des trois rangs, et ainsi de suite. Alors, on est allé très loin à la période hellénistique, on est passé à des navires à six rameurs, des six, qui correspondait en fait à une trière à deux rameurs. On est arrivé même à des 10 et même à des 15, ce qui veut dire que la structure même du navire en a été changée. Alors cette évolution, qui est une évolution qui n'est pas uniquement due à la volonté de puissance, au fait de montrer qu'on a un bateau de grande taille, mais qui correspond aussi à l'arrivée d'une nouvelle arme, la catapulte embarquée, a forcément créé de nouvelles tactiques et de nouvelles stratégies. Nouvelles tactiques et nouvelles stratégies liées à la mer. D'abord, il s'agit des armes. Je ne vais pas reprendre toutes les armes utilisées, mais vous avez déjà perçu l'existence de l'éperon, et on sait qu'il y a des éperons de type extrêmement différent suivant les cités, que ces éperons peuvent être très lourds. À l'époque hellénistique, on a des éperons de 450 kg pour une tétraire ou pour une pintère, ce qui est par conséquent considérable. On a dû mettre au point, dès la fin de l'époque archaïque, le grappin pour l'abordage. On a d'ailleurs un avantage à posséder un grappin, même si ce qui intéresse essentiellement, c'est l'épronage, parce qu'une fois qu'un navire a été épronné, qu'est-ce qui se passe? Il peut couler, mais quand le navire épronneur est resté sur place, on a tout intérêt à le saisir au grappin, à recréer un abordage et à se rendre maître de ce navire. Rajoutons également, parmi les armes, le dauphin, masse de plomb suspendu entre deux navires, qu'on laisse tomber, surtout bateau cherchant à forcer le passage. On voit que ces armes réclament le contact pour être pleinement efficaces. Mais on notera cette apparition de la catapulte embarquée, dont je parlais tout à l'heure. Malgré l'inévitable imprécision du tir, il y a quand même de quoi stopper la progression de l'ennemi, ou du moins de quoi créer du désordre dans sa ligne. Plus le navire adverse est fragile ou risque de se retourner, et c'est le cas des trières, plus il est vulnérable. Face à une flotte ainsi armée, le seul moyen pour un commandant en chef de sauver ses navires et d'élargir l'espace qui les sépare, le risque, c'est la rupture de sa ligne d'attaque, ce qui laisse l'initiative à l'adversaire. L'adoption de la catapulte embarquée a donc obligé à modifier les tactiques. Donc le renouvellement de l'armement va de pair avec l'invention de nouveaux procédés de combat. Revenons à la fin de la période archaïque et à la période classique. Trois grandes tactiques ont été utilisées, liées à l'épronage, le Dieck Plus, le Péri Plus et le Cuclos. Dans une certaine mesure, le Dieck Plus est une adaptation du combat hoplitique à la mer, mise en ligne et choc ayant pour but de rompre la ligne adverse. Mais les moyens en sont différents. Il ne s'agit pas de rechercher un choc éperon contre éperon, mais tout d'abord de désemparer le navire ennemi. Il s'agit donc de se disposer sur un seul rang, proue face à l'adversaire, puis d'attaquer à force de rame, de façon à se glisser dans la ligne ennemie en brisant le plus possible d'aviron, manœuvre qui demande de la rapidité et un bon entraînement, parce qu'il faut ranger ses propres avirons juste avant de casser ceux de l'ennemi. Après avoir désemparé l'adversaire, il est facile de se retourner contre lui par la manœuvre dite d'anastrophée, de retournement, et de le couler ou de le mettre hors de combat. Mais pour ce faire, il convient d'avoir au moins l'égalité numérique avec l'adversaire. Les deux autres tactiques n'ont, elles, que peu de rapport avec le combat terrestre, car elles sont défensives autant qu'offensives. En cas d'infériorité numérique, on peut risquer l'attaque en pratiquant le périplus, navigation autour. C'est ce que fit Formion à la bataille de Patraille en 413 face aux Péloponnésiens. Les Athéniens, et je cite Thucydide, rangés sur une seule file, décrivaient autour d'eux, donc les Spartiates, des cercles et les enfermaient dans un cercle réduit en suggérant une attaque imminente. En fait, Formion ne comptait pas attaquer tout de suite, mais il comptait sur le désordre qui se met inévitablement dans une flotte, restant immobile trop longtemps du fait de la mer et du vent, comme cela arrive habituellement à l'aurore. C'est lorsque ça se produisit que, saisissant le moment, le kairos, l'occasion favorable où se décide le sort d'une bataille et que doit savoir saisir tout bon chef, il attaqua. D'ailleurs, en cas d'infériorité numérique ou tactique, des vaisseaux moins bons marcheurs, on peut empêcher le diecplus adverse en se mettant sur plusieurs lignes de front, en quinconce, comme firent les Athéniens aux îles Argineuses. On ne peut pas pratiquer le diecplus puisqu'on ne peut pas se glisser entre les navires. Troisième tactique, la mise en cercle, proue contre l'adversaire, ou kyklos, cercle, est une manœuvre de défense désespérée, celle que pratiquaient les Péloponnésiens à Patraille, mais qui d'ailleurs ne les savoient pas. La mise en œuvre de ces tactiques pose le problème du commandement. Si le dispositif et la tactique peuvent être fixés dès le départ, l'amiral a quand même un rôle important dans la conduite de la bataille. Même si, une fois le choc intervenu, elle se résume à un combat unité contre unité, il doit garder une vue complète de l'action, s'adapter en fonction de l'évolution du combat, puisque bien souvent, il y a une aile marchande qui a pour but de tourner l'adversaire, ou une partie du dispositif qui a été renforcée pour percer la ligne de front de l'adversaire. Il faudra reformer la ligne ou manœuvrer pour éviter l'encerclement. Et le caractère changeant de la mer peut à tout moment obliger à des ajustements qui ne sont pas uniquement dus au sort des armes. L'expérience maritime du commandant en chef est donc essentielle, et on conçoit que sa mort puisse être une catastrophe, comme ce fut le cas lorsque Callicratidas, le navarque péloponnésien, tomba à l'eau et se noya aux îles Arginuses. Cette constatation n'est pas surprenante, mais elle mérite d'être mise en relation avec ce qui se passe sur Terre. Si nous nous en tenons à nos sources, il faut attendre le IVe siècle pour que ce rôle d'intervention du chef durant le combat, ce pouvoir de forcer le destin, lui soit reconnu par nos sources et par la culture de guerre antique. Alors certes, ce qui est en cause, c'est l'image de la guerre et non forcément sa pratique, mais on peut au moins risquer l'hypothèse que le nécessaire abandon du mythe du général hoplite, c'est-à-dire un hoplite parmi les autres, a été facilité par ce recours à la bataille navale. Dans ces conditions, la mer a donné naissance à de nouveaux types de batailles. Dans la mesure où la maîtrise de la mer est le but recherché, qu'elle ne demande pas pour être maintenue qu'un grand nombre de bâtiments croisent, la présence d'une flotte ennemie est le signe qu'on n'en dispose pas ou qu'on l'a perdue. En réalité, normalement, à la mer, si on a la maîtrise de la mer, on ne doit pas avoir de bateau sur sa route. Par conséquent, normalement, la bataille en elle-même n'a pas de raison d'être si on a réellement cette maîtrise de la mer. Alors, les batailles sont beaucoup plus inopinées que consenties. Elles se distingueront les unes des autres essentiellement par leur localisation, par rapport au passage obligé et par la manière dont chef et flotte s'y adaptent. Bataille au large, peut-être. Elles sont, à la période classique, l'apanage des Athéniens. Mais le large, c'est le large au sens de la trière antique. Les Athéniens ont l'avantage par leur connaissance du milieu marin, leur entraînement, la construction de leurs trières plus lourdes mais plus effilées, avec un éperon bas, qui sont faites pour un choc de travers, comme le constate le Péloponnésien Gylippe lors de la seconde bataille sur terre et sur mer de Syracuse. Un combat en pleine mer, ou du moins en un lieu où l'espace ne manque pas, demande la bonne pratique du diecplus et du périplus. Il convient d'abord de se mettre en formation de combat, c'est-à-dire de passer du dispositif de route en fil à un dispositif de combat en ligne sur un ou plusieurs rangs, car ça n'est que tout à fait exceptionnellement. Paulien classe ceci parmi ses ruses de guerre pour tromper l'adversaire sur le faible nombre des vaisseaux, qu'un stratège comme Fornion divisa en 5 files ses 30 trières pour attaquer séparément l'ennemi et semer le désordre dans ses rangs. Lorsqu'on a en plus des vaisseaux à protéger, des navires marchands ou des transports, et c'est quand même aussi une des missions de la mer, eh bien, on les place au centre et on adopte une formation en croissant. Alors que, ordinairement, pour une bataille consentie, on se dispose en ligne. On notera toutefois que les batailles véritablement en pleine mer sont rares, essentiellement en raison des médiocres performances nautiques des trières. Le large, pour elles, c'est simplement un lieu où il y a de l'espace, comme aux îles Arginuses, où une quinzaine de kilomètres à vol d'oiseau sépare la côte de Mytilène, ou à Cybota, où la distance entre Corcyre et le continent est de l'ordre d'une dizaine. En revanche, à la bataille de Patraille, les escadres étaient déjà sorties du golfe lorsqu'elles se heurtèrent. mais de façon, il est vrai, totalement imprévue. Les batailles à proximité de la côte, soit bien souvent dans des goulets ou d'étroits passages, comme l'Hellespont, qui a quelques kilomètres de largeur seulement, là, l'espace est réduit, les mêmes tactiques peuvent s'appliquer, la même mise en place, comme à Cynossema, où les Athéniens passèrent d'une colonne à une ligne, mais la crainte existe toujours que l'ennemi ne vous drosse sur le rivage. Avant la bataille de Naupacte, ainsi, Phormion affirmait, je cite toujours Thucydide, qu'en face d'une grande flotte inexpérimentée, une petite flotte expérimentée et manœuvrant mieux n'est pas servie par l'étroitesse du champ. On ne saurait ni attaquer en avant comme il faut pour provoquer le choc si on n'a pas de recul pour voir l'ennemi devant soi, ni se dégager en temps voulu si l'on est serré de près. Il n'y a pas moyen non plus de percer la ligne et de faire demi-tour, comme c'est le cas des navires manœuvrant le mieux. J'arrête la citation. Il n'empêche qu'il dut accepter le combat. Et avançant sur 4 rangs de profondeur, les Péloponnésiens leur interdisaient le Dieckplus et leurs navires les plus manœuvrants avaient été placés à l'aile droite pour déborder et intercepter les Athéniens s'ils tentaient de longer la côte vers la partie la moins étroite du golfe afin de gagner au large. Seuls les navires de tête athéniens purent le faire. Les autres furent surpris et rejetés sur la côte. Poursuivi, ce n'est que par un hasard habilement saisi, la présence d'un chaland mouillé au large, qu'un navire athénien contourna en se dissimulant de façon à réattaquer le navire le plus proche de face et que les Athéniens purent transformer, en exploitant ce petit avantage précis, purent transformer leur défaite en succès. Et ce fut le tour des Péloponnésiens d'être drossés à la côte et pour certains d'entre eux de s'échouer sur des hauts fonds. Les choses se passèrent de la même manière à Cynossema, où l'escadre péloponnésienne stationnait dans l'Hellespont à proximité du passage étroit. Les Athéniens vinrent les surprendre en progressant dos à la côte. Les Péloponnésiens sortirent donc et cherchèrent à déborder pour couper à leurs adversaires la route de l'extérieur et donc la possibilité de s'enfuir ou de manœuvrer, et pour jeter à la côte leur centre. Étendant leur ligne, les Athéniens purent parer au danger d'interception. Mais ils ne purent éviter qu'à leur centre, certains navires ne soient drossés à la côte sans que l'une ou l'autre des ailes puisse les soutenir. Ce n'est que lorsque les Péloponnésiens, ayant eu raison du centre, se lancèrent en désordre contre les deux ailes athéniennes que celles-ci, faisant une brusque conversion, les attaquèrent et, semble-t-il, par un double périplus, les détruisirent. Autre type, lorsque les batailles ont lieu en champ clos, elles ont tendance à se transformer très rapidement en une mêlée confuse dans laquelle l'éperonnement et l'abordage se rejoignent, les navires les plus manœuvrants éperonnent les autres, et ceux qui ne sont pas manœuvrants pratiquent l'abordage. Là, une connaissance des lieux est essentielle. C'est le cas pour Salamine, où le fameux vent de Salamine, le vent du petit matin, déstabilisa les hauts navires perses. C'est le cas aussi à Syracuse, où 4 fois les Syracusains eurent le dessus sur les Athéniens. Certes, le succès était dû à une innovation technique, servant de parade à l'éperonnement adverse. Renforcer sa proue par des pièces de bois fixées à la coque et débordant largement de chaque côté, il devenait impossible de pratiquer efficacement la tactique du périclus, mais en même temps, toute tentative pour le faire amenait le navire attaquant à risquer d'être désemparé lui-même, les pales de ses rames étant détruites par les bossoirs. Les Syracusains pouvaient donc, avec ces navires à bossoirs renforcés, pratiquer le choc proue contre des trières athéniennes mieux douées par les mouvements tournants que pour de tels chocs et dont les éperons étaient plus bas, mais étant plus bas, compte tenu de la pente de l'étrave, eh bien, ils étaient, eux, les Athéniens, attaqués au contact avant que leurs éperons arrivent au contact des navires adverses. Dans ces conditions, dans ces lieux clos, la bataille se fait non seulement à coups d'éperon, mais à coups de javelot, à coups d'armes blanches, sans oublier les grappins, brûlots et tous les obstacles sous-marins. Enfin, autre type de bataille, et il y en a eu, les batailles contre une flotte au mouillage. C'est-à-dire que ce sont des actes de surprise, presque des non-batailles navales, certaines des opérations se déroulant à terre. Tel aurait été le cas, selon Xénophon, de la bataille de Cyzique, au cours de laquelle Alcibiade, avec un détachement de 20 navires, aurait débarqué et contourné Mindaros, surpris au mouillage, passé à terre, l'aurait vaincu sur terre et aurait saisi ses bateaux. Tel pourrait aussi, selon la description de Xénophon, avoir été le cas d'Egos Potamos, dont on fait plus ou moins à tort, mais j'y reviendrai d'ici quelques instants, même si je sais que le temps tourne et je vais essayer d'aller vite, Egos Potamos, dont on fait une bataille décisive. À la fin de la période archaïque, On le voit, la bataille navale n'est pas ignorée. Mais était-elle pensée dans le cadre d'une stratégie globale ? Celle de Sibota en 664 n'est pour nous qu'un nom. On sait que lors de la bataille d'Alalia en 335, le combat se fit à l'éperon, puisque de nombreux vaisseaux phocéens furent mis hors d'usage, leurs éperons étant faussés. Mais il faut attendre la bataille de Ladai en 494 pour percevoir les premiers éléments de tactique. Salamine également se déroula en fonction d'une tactique préconçue. Mais le fait qu'elle fût le dernier engagement d'une guerre qui dura encore un an et qui ne fut tranchée que sur terre aplatée prouve que la mer n'était pas intégrée dans une conception stratégique. Il appartient aux Athéniens d'en élaborer une. Au moment où elle est le plus aboutie, au début de la guerre du Péloponnèse, la stratégie athénienne fondée sur la mer peut être exprimée de la manière suivante. Rester à l'abri des longs murs, compter sur sa flotte, maintenir ses revenus sans chercher à étendre l'Empire et intervenir militairement par surprise et de façon ciblée. C'est Thucydide qui nous le dit très clairement. La maîtrise de la mer est donc essentielle pour qu'une telle stratégie soit opérante. La prudence également, et donc la méfiance envers le choc frontal massif, le refus de la bataille terrestre générale, mais aussi le refus de la bataille navale générale. Une telle stratégie n'est rendue possible que parce que, entre Marathon et la guerre du Péloponnèse, s'est produit un véritable basculement stratégique, la mer seule permettant, si l'on suit Thucydide, de disposer d'un moyen de faire la guerre et d'établir une hégémonie durable. Les Athéniens se sont donc assurés depuis 478 d'un empire maritime solide. Ils disposent ainsi des points d'appui indispensables pour tenir la mer avec des bateaux de guerre qui ne peuvent s'éloigner longtemps de la côte et qui ne peuvent combattre qu'exceptionnellement en haute mer. Ils bénéficient aussi, grâce au phoros, que nous traduisons par tribu, contribution versée régulièrement par les alliés en échange de leur protection par la flotte athénienne, ils disposent des revenus indispensables pour avoir en permanence les navires dont la construction est standardisée et pour pouvoir payer les soldes. On sait que de tout temps, la guerre sur mer a été infiniment plus coûteuse que la guerre sur terre. Ainsi, bien avant Mahane, le monde grec avait théorisé une stratégie des points d'appui indispensables à la fois pour le commerce et pour l'obligation de relâcher de nuit. Mais l'Empire, qui est la force d'Athènes, est également son point faible. Le risque de défection porte en germe l'extension du conflit et l'abandon de l'objectif principal, ce que craignait Thucydide. Lorsque Thucydide pointait du doigt l'oubli par les Athéniens de la sagesse de Périclès au point d'engager la cité dans une politique d'aventure dictée par leurs ambitions personnelles en perdant de vue le but principal et donc l'aspect proprement militaire du conflit, lorsqu'il remarquait que l'extension géographique du conflit, la mauvaise gestion des moyens, la sous-estimation de l'adversaire et les discordes civiles ne pouvaient qu'entraîner finalement la catastrophe, on l'a dans le livre 2, nous ne l'avons pas à la fin de son œuvre, et on sait qu'il n'a pas pu l'achever d'ailleurs, pouvait-il, cela dit, pris par l'analyse pénétrante de la réalité, envisager que c'était le fondement même de cette stratégie maritime novatrice qui était en cause ? En fait, la mer à elle seule permettait-elle, aurait-elle permis, peut-elle même permettre d'obtenir les décisions ? L'historien contemporain peut en douter, tant par l'examen des réalités antiques que par le raisonnement des stratégistes ultérieurs. Peut-on en effet affirmer que la bataille navale ait pu être pleinement décisive hors combat terrestre ? En fait, toutes les guerres antiques se sont jugées sur terre. Pour ne prendre que quelques exemples bien connus, Salamine est une victoire stratégique, certes, parce qu'elle a permis de gagner du temps, d'éviter la destruction, mais il a fallu plater. Actium n'a été décisive que parce que la mer était le seul terrain d'action qui restait à Marc-Antoine. Quant à Aegos Potamos, elle permit aux Lacédémoniens de démanteler ensuite méthodiquement l'Empire et ensuite de bloquer la cité des Athéniens privés de tout moyen financier pour recréer une flotte. C'est-à-dire qu'Aegos Potamos n'a été en fait une bataille décisive qu'indirectement, une bataille décisive que par le financement. Elle n'est décisive, cette bataille navale, que si elle laisse la maîtrise de la mer à l'adversaire et que celui-ci utilise pour mener des opérations terrestres sans opposition cette maîtrise. Ou alors elle est décisive parce qu'elle laisse l'ennemi exsangue, financièrement sans possibilité de constituer à nouveau une flotte et sans stratégie de rechange. La mer n'emporte pas à elle seule la décision, ou alors c'est de façon indirecte. Cette réalité antique est, nous disent les stratégistes contemporains, un fait de tous les temps. Laissons la parole non pas à Mahane, non pas évidemment aux stratégistes ultra-contemporains des conditions de la guerre sont différentes, mais citons plutôt Julius Corbett, qui fut le premier, il y a un siècle, à transposer la stratégie maritime, dans la stratégie maritime, à transposer les enseignements de Clausewitz sur la guerre terrestre. Et à cette époque, on pouvait encore validement faire une comparaison entre l'Antiquité et la fin du XIXe, tout début du XXe. Méthodologiquement, c'était possible. Donc, si nous suivons Corbett, une stratégie offensive par voie maritime passe par le blocus. Elle peut être très efficace, mais elle est nécessairement lente et n'induit pas par elle-même la bataille navale. Ainsi sur terre, seule la tactique peut être seule la tactique peut être offensive. La stratégie, elle, y est par essence défensive ou du moins négative. Cette stratégie, on l'apparentera à la petite guerre. Dans ces conditions, une stratégie maritime n'est possible qu'à condition de pouvoir limiter son champ d'action. Et on retrouve là l'intuition de Thucydide, catastrophe, si on augmente trop le champ d'action, on n'aura pas la victoire. Sinon, la mer ne formera qu'une force d'appui à l'action sur terre. Alors ce détour vers les stratégistes contemporains permet d'interpréter plus favorablement qu'on ne le fait d'habitude l'utilisation de la mer à la période hellénistique. Le retour partiel à l'abordage, l'augmentation des tonnages obéissant en fait à la fois à des raisons nautiques, des raisons tactiques et des raisons méthodologiques, était peut-être une obligation. La Trière était un navire fait pour le combat et la rapidité, mais elle avait atteint un maximum, on ne pouvait pas la développer. On ne pouvait pas augmenter sa vitesse en augmentant le nombre de rameurs par allongement, sans créer des zones de faiblesse dans la carlingue et sans risque de talonnement fréquent. On ne pouvait pas non plus augmenter le nombre de rameurs superposés sans risquer de prendre de la gîte et que le bateau ne se retourne. Augmenter la puissance demandait donc deux rameurs par rang ou plus, donc d'augmenter la largeur et de quiller plus nettement le navire. Plus gros, celui-ci était plus stable et naviguait mieux en haute mer. Il pouvait aussi résister aux tirs des catapultes embarquées. Propulsion à la voile et à la rame pouvait se compléter au lieu d'être utilisée alternativement. Mais l'anastrophe nécessaire au Dieklus devenait difficile. Tactiquement, le choc direct navire contre direct, éventuellement suivi d'abordage, retrouvait son utilité. On a continué quand même à éperonner à la période hellénistique, mais pas exactement dans le même but. L'attaque frontale était possible en ligne, mais elle devenait également possible en colonne. Enfin, stratégiquement, l'extension du champ de bataille à l'ensemble de la Méditerranée orientale, et pas seulement même la Méditerranée orientale, rendait impossible qu'on mît tous ses espoirs dans une opération strictement navale. De manière géostratégique, en plus, le partage des points d'appui entre plusieurs royaumes ou cités importantes, l'impossibilité pour une puissance navale de contrôler entièrement l'un ou l'autre des points de passage essentiels, obligeait les escadres à être plus éloignées de leur base que ne l'étaient les belligérants de la guerre du Péloponnèse. La stratégie de la guerre du Péloponnèse était impossible, mais la mer trouvait sa place dans des opérations combinées et dans un rôle indispensable d'appui et de blocus. Une flotte diversifiée, mais comprenant des navires lourds permettant à la fois le transport de troupes, assurant la logistique et susceptibles de protéger leur contenu au combat, devenait la règle. Par cette mutation qu'on pourrait peut-être comparer, mutatisme tandis, bien sûr, à la révolution du navire de haut bord à la période moderne, la mer justifiait sa présence dans le cadre d'une stratégie de complément.
Merci pour cet exposé tout à fait passionnant, en tout cas, surtout pour les non-marins, et très complet. Je propose de passer directement à Byzance, parce qu'on est, je suppose, dans une certaine continuité, et on discutera tout à l'heure.
Bon. Oui et non.
Bon, ben... Merci à vous, tout ça est passionnant. Enfin, surtout que ça ne fait pas vraiment partie de la culture générale. Et donc, on découvre... Bon, ben nous, j'ouvre la discussion. Qui veut poser des questions à nos savants, à nos deux savants? Oui, général.
Est-ce que vous pouvez dire quelques mots sur les Vikings? Là, on parle de flotte et tout. Est-ce qu'il y a eu un moment ou un autre un contact? Alors, ça dépasse peut-être un peu la période, mais...
Quand je parle des Russes, c'est des Ross,
C'est-à-dire que c'est des hommes du Nord. Ce sont ce qu'on appellerait en Occident des Vikings. Mais les flottes vikings sont venues attaquer l'Espagne. Ils ont attaqué Séville, etc. Mais les bateaux des Vikings sont forcément relativement légers, puisque précisément pour descendre les fleuves russes et les rapides du Dniestre, il faut les mettre sur son dos. Les Vikings sont forts et courageux, mais enfin, ça limite quand même la taille du navire. Donc, on les connaît bien, et les Russes sont aussi venus par voie de terre au moins à une reprise. Mais normalement, l'idée, c'était d'aller piller la ville riche. Et après, ils ont été employés, évidemment, comme mercenaires dans l'armée byzantine, où ils étaient... C'est devenu le noyau primitif de ce qu'on a appelé les varanges. Mais ils avaient une arme caractéristique, la hache à double tranchant, qui, paraît-il, taillait dans un sens, retaillait dans l'autre.
Ils avaient le nom Vareg, d'ailleurs.
Oui, Varange, oui, c'est ça. Varange, oui, oui.
Alors, Vareg, c'est qui utilisait le mot Vareg? C'est nous, c'est Josie?
Non, eux, les Byzantins parlaient de Varangoï, oui, les Varanges, oui.
La composition, je dirais, sociale des marins, alors aussi bien en Grèce hellénistique ou en Grèce classique qu'à Byzance. Donc vous aviez effectivement évoqué les anciens officiers terriens qui devenaient des officiers de marine. Donc est-ce qu'il n'y avait pas des peuples au sein des deux empires, si on peut parler d'empire, qui étaient plus prédestinés à servir sur mer que d'autres?
Je laisse la priorité à l'Antiquité.
Priorité uniquement chronologique, et vous avez entièrement raison, mon colonel, de faire la différence entre la période classique et la période hellénistique. À la période classique, en fait, les marins, ce sont des citoyens comme rameurs, mais les citoyens pauvres, et quand on n'a pas de citoyens pauvres, eh bien, on remplit la soute avec des étrangers, voire même avec des esclaves. Et en règle générale, être marin... Vivre de la mer, ça n'est pas valorisant dans le monde des citoyens. En revanche, à la période hellénistique, on commence à avoir des spécialistes, et il y a notamment un état dans lequel la mer devient une spécialité, c'est Rhodes, et je crois que le fait est remarquable, parce qu'à Rhodes, l'aristocratie sert à la mer, et c'est considéré comme une preuve, justement, de supériorité sociale de servir à la mer. À ce moment-là, ce sont devenus des spécialistes. Alors que pour le monde grec classique, on se méfie toujours de la mer. Le danger vient de la mer et on se méfie des marins qui sont des asociaux et même incapables de fonder une famille, une femme dans chaque port, si je puis me permettre de le dire.
Je reprends sur Byzance. Le système est un peu compliqué. Disons que je prends la période macédonienne classique. On a un système dit des thèmes où il y a un recrutement local par les stratèges de thèmes. Et lors des campagnes, on reçoit une solde supplémentaire. Si vous voulez, vous avez un petit quelque chose pour le niveau de vie, mais quand vous y allez vraiment, vous avez quelques pièces d'or en plus. Les marins ont toujours la moitié, voire moins, la moitié qu'un soldat, et alors beaucoup moins qu'un cavalier lourd, évidemment. Donc il a deux pièces d'or, l'autre doit en avoir quatre. Enfin, et si vous voulez, la surface du terrain pour lequel il y a une exemption d'impôt pour qu'il puisse vivre est considérée de valant de 2 livres d'or, le soldat classique 4 livres d'or, et plus tard le cavalier lourd, ce sera 12 livres d'or. Ça indique simplement une hiérarchie et le marin est en dessous. Alors les officiers de marine, les amiraux, eux, sont parfois de très grandes familles. Hein. Je veux dire, ça, c'est Imerios, c'est autour de l'époque de Thessalonique, avec ses succès et ses défaites, c'est sûrement un cousin de l'empereur Léon VI.
En Chine, dans la hiérarchie officielle chinoise, les marins-pêcheurs sont au tout dernier rang avec les prostituées, enfin... Donc, et puis dans la marine anglaise à la belle époque, bon, les officiers pouvaient être et étaient de bonne société, mais les marins étaient la racaille, enfin. Et c'était intéressant. Pourquoi cette situation déprimée du marin? Probablement parce que c'est un travail très, très dur, très, très fatigant et pas très valorisant. Ils ne se battaient pas, enfin, les rameurs, par exemple. Ils ramaient, ou ils se battaient de temps en temps.
les liens, on pouvait se battre.
Ah oui.
Tout dépend de l'utilisation. Si c'est en bataille navale, ils ne se battaient pas sauf avec leur âme, mais en expédition extérieure, rien n'empêchait à ce moment-là de les armer et de les transformer peut-être en hoplites parce qu'on n'avait pas l'armement nécessaire, mais en tout cas de les transformer en fantassins légers. Mais je crois que le problème du marin dans la Grèce ancienne et d'ailleurs dans les mondes anciens vient du fait que le marin, c'est celui qui n'a pas de terre, c'est celui qui est obligé, selon l'expression même des Grecs anciens, de labourer la mer parce qu'il ne peut pas gagner sa vie autrement. Et comme il n'a pas de terre, il ne peut pas être rattaché à la société normale, même à la cité, puisqu'il y a certaines cités dans lesquelles la citoyenneté va de pair avec la possession foncière.
Oui. À Byzance, c'est un petit peu différent. Ils ont des terres, parce que c'est fondamentalement un système qui était fondé sur la terre. Mais ils ne doivent pas fournir d'armement lourd. Une paire de rames, c'est quand même pas... normalement, c'est le soldat, à ce moment-là, qui fournit, qui a son équipement. Une paire de rames, c'est moins cher quand même qu'une cotte de maille. Et donc, on peut... Et comme je l'ai dit, techniquement, l'entraînement est quand même... Préparer une charge de cavalerie, c'est plus compliqué que de... synchroniser des rameurs, je pense.
Oui, c'est vrai. Pour l'Antiquité, il faut prendre en compte, mais je pense que vous pourriez le dire aussi bien et peut-être même mieux que moi, que en fait, la mer, le fait d'avoir des flottes et de combattre sur mer a permis d'utiliser une partie des citoyens qui, autrement, étant totalement incapables financièrement de payer un équipement, n'auraient pas été utilisés, d'où ce que vous avez d'ailleurs dit hier, ce glissement progressif de l'armement, disons de la guerre, de l'hoplite, qui est le citoyen possédant des terres, le citoyen possédant une certaine fortune, à tout le monde par la mer, glissement qui est un glissement militaire, technique, mais qui est également un glissement sociologique et politique, et ce qui explique peut-être, comme vous l'avez dit, donc je crois avoir bien suivi ce que vous disiez hier, cette reprise d'intérêt pour les aspects sociologiques de l'hoplitisme et cette reconstruction de ce qu'a été l'évolution ou la fausse révolution hoplitique au IVe siècle.
Oui, bien sûr, tout à fait, oui. Mais pour en revenir à la mer, moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que ce n'est pas très clair la manière dont on se bat, finalement, parce qu'on a une vision avec Thucydide de ballet, en quelque sorte. On a des manœuvres extraordinaires qui nécessitent une grande technicité de la part des marins, parce que ça ne se fait pas, il faut s'entraîner quand même. Et puis, la part de cela par rapport à la part de l'abordage aussi. Et à quoi sert l'éperon aussi, concrètement? Est-ce qu'on éperonne vraiment les navires ou est-ce que c'est uniquement pour briser les rames? Parce que lorsqu'on est fiché dans la coque adverse, on a aussi un grand risque de couler avec, non? Enfin,
Il y a un point précis, en tout cas, ouais. Un point précis qui montre qu'on éperonnait, mais pas forcément avec le but de détruire complètement et de faire couler corps et biens le navire, c'est qu'on récupérait les coques. Et quand on peut, on récupère les coques de l'adversaire, les navires adverses ayant été désertés par leurs rameurs qui nagent jusqu'à la côte. Rester maître du champ de bataille, c'est pouvoir récupérer les coques de l'adversaire en un monde où le bois était peut-être un petit peu moins abondant qu'il ne l'était dans l'Empire byzantin. Les Grecs du sud et du centre, finalement, étaient obligés d'importer le bois servant à construire leurs navires du nord.
J'avais une question, mais à laquelle vous avez répondu tous les deux, non pas en début d'exposé, mais en fin d'exposé, qui est une question que je résumerai de la manière suivante. Comment une bataille navale peut-elle décider de l'issue d'une guerre? Et vous avez l'un et l'autre dit que ça se décidait sur terre. Et donc la marine de guerre servait avant tout à contrôler des lignes d'approvisionnement, peut-être pas avant tout, mais ça, aussi pour ce qui est de Byzance, c'est évident. Enfin, il s'agissait d'assurer le ravitaillement de Constantinople. Et donc, est-ce que... Alors, ça, je suis totalement ignorant sur ces questions. Est-ce que plus tard, enfin, on en parlera peut-être tout à l'heure, de nos jours ou à l'époque moderne, la marine de guerre joue-t-elle un rôle plus décisif dans l'issue de la guerre qu'aux époques anciennes? Oui, M. Couven.
Je voulais simplement répondre pour revenir sur Aigos Potamos, donc sur l'Antiquité grecque. Vous avez, effectivement, c'est peut-être... Enfin, il me semble que c'est quand même une bataille assez décisive, peut-être indirectement, mais ça détruit quand même la flotte athénienne et ça empêche aux Athéniens de pouvoir forcer le blocus maritime de Lysandre, des Spartiates. Et là, alors on est mal renseigné, semble-t-il, là-dessus.
Ah ben, on est même mal renseigné sur la bataille, dont on ne sait pas réellement si c'est une bataille navale ou une bataille à terre.
Alors, oui,
mais en tout cas, de toute façon, vous avez entièrement raison, Aigos Potamos est décisive dans une certaine mesure, mais elle l'est indirectement, parce que le coût de la guerre sur mer est tel qu'il y a un moment où il faut arrêter les frais pour fixer un petit peu les choses. Eh bien, compte tenu de la solde qui est... donné aux marins, et dans le monde grec, il n'y a pas cette différence de solde aussi importante que dans le monde byzantin entre le rameur qui est un citoyen, quand il est un citoyen, et le soldat. Un mois et demi à deux mois de mer de solde pour un navire équivaut au coût de construction du navire. Par conséquent, si l'on perd le navire et si l'on est obligé, en plus de croiser beaucoup plus longtemps et de faire croiser à de nombreux navires beaucoup plus longtemps que d'habitude, eh bien, l'État ne peut pas suivre. Il ne peut pas construire des navires si facilement, malgré la standardisation. Vous disiez que les Vénitiens pouvaient construire des navires en 24 heures. J'allais dire que ça ne m'étonne pas, parce que le système athénien, avec sa standardisation, je ne sais pas combien de temps ils mettaient à construire un navire, mais ils l'avaient. Mais encore faut-il qu'ils aient eu le financement.
Avec votre autorisation, un mot peut-être sur la Grande Guerre, puisque vous avez autorisé vous-même à franchir quelques décennies, quelques siècles. Je vous en remercie infiniment, ça ne m'étonne pas de ces lieux. Au fond, puisque qu'est-ce que c'est que la Grande Guerre? Il y a une bataille de la Marne au début, une bataille de la Marne à la fin, et au milieu, il faut tenir à Verdun. Si je ne prends que le front occidental, il y a ce qui se passe également en Russie, dans les Balkans ou ailleurs. Qu'est-ce qui, d'une manière ou d'une autre, emporte la décision? C'est l'efficacité du blocus et du blocus naval. Des puissances navales, qui est organisée d'ailleurs assez tôt et qui se poursuit après la guerre, puisqu'il dure jusqu'en 1919. Et ce blocus, qui est au départ un concept franco-britannique et qui fonctionne d'ailleurs très bien, il faut le reconnaître, c'est aussi le blocus qui entraîne la guerre sous-marine allemande et finalement la guerre sous-marine à outrance. C'est la guerre sous-marine qui provoque en partie l'entrée en guerre des États-Unis. Et au fond, la guerre de 14, c'est le triomphe, dans une certaine mesure, des puissances maritimes, comme on le voit bien au traité de Washington en 1921-1922. Alors, il s'agit d'une réponse un peu indirecte. Il n'y a pas d'engagement décisif, puisque le Jutland n'est pas un engagement décisif. Mais d'une certaine manière, cette affaire a montré son efficacité. À Vienne, pendant l'hiver 1916-1917, on meurt de faim. La taille moyenne des enfants allemands en 1917-1918 est de 10 à 15, 10 centimètres de moins qu'à la veille de la guerre de 14. Donc on a là des choses qui, de ce point de vue, sont très intéressantes. Avec évidemment une différence considérable par rapport à la Deuxième Guerre mondiale, c'est que pendant la Deuxième Guerre mondiale, alors que l'Allemagne, pendant la Première Guerre mondiale, n'a pas de colonies, qu'au fond son espace de manœuvre, y compris à l'Est d'ailleurs, est relativement resserré. Dans la Deuxième Guerre mondiale, le Troisième Reich a organisé le pillage de l'Europe. C'est la thèse de Goetz Ali, comment Hitler a acheté les Allemands. Et ça permet là probablement un blocus maritime beaucoup moins efficace qu'il ne l'était. Il n'empêche que le maintien des lignes de communication et la bataille de l'Atlantique, gagnée dans le deuxième semestre 1943, est également décisive.
Ça va exactement dans le sens de vos deux exposés. Enfin, il faut avoir la maîtrise de la mer pour gagner sur terre. Enfin, c'est un peu ça, non?
Oui. Si je pouvais me permettre aussi d'ajouter quelque chose, monsieur l'inspecteur général, c'est qu'en fait, Une des raisons pour lesquelles Hitler, conseillé par Raeder, a envahi la Norvège, c'est évidemment une des leçons tirées de la Première Guerre mondiale. C'est pour donner du débouché à ses sous-marins et à ses avions pour mieux contrer l'Angleterre, même si ensuite, ça, évidemment, le blocus allié a été beaucoup moins efficace pour cette raison également.
Monsieur Knapp.
Oui, juste pour enchaîner sur Tristan Lecoq. Je ne sais pas si mes chiffres ne sont pas du tout précis, mais selon l'histoire officielle de la Royal Navy de la Première Guerre, qui est sortie mais non publiée à la fin des années 30, le blocus était directement responsable de la mort de plusieurs centaines de milliers de civils allemands. Et autrichiens. Oui, oui, c'était...
Une conséquence dont on perçoit encore les effets, parce que pour trouver à nourrir les populations des empires centraux, il devient urgent de mettre la main sur l'Ukraine, et à ce moment-là, pour Berlin, d'appuyer tout ce qui est mouvement d'indépendance ukrainienne, et c'est le moment où se met en place ce lien entre nationalisme ukrainien et intérêt allemand, qui, sous des formes différentes à travers le temps, se retrouve aujourd'hui.
Oui. Si vous me permettez de revenir un tout petit peu au blocus, finalement, l'une des conséquences stratégiques du blocus et la conséquence indirecte du fait qu'il force l'ennemi à un contre-blocus, et ce contre-blocus n'est possible qu'à condition d'étendre encore plus le champ de la guerre, et il y a un moment où cette extension devient impossible. Vous citiez la Scandinavie, mais prenons le blocus continental. Que fait Napoléon face au blocus? Mais il est obligé d'étendre son champ de manœuvre et de l'étendre d'une façon qui le rend totalement ingérable.
Eh bien, merci, messieurs. Vous m'avez persuadé, je n'en avais pas besoin, que l'humanité est une, que l'histoire humaine et sinon une, du moins, il y a des fils conducteurs, et là, il est magnifique, celui-là, enfin. Et d'ailleurs, cela m'incite à réfléchir avec M. Chaline à la possibilité d'inclure dans les actes, par des commandes, si vous voulez, le blocus qui ne figure pas. Nous avons pensé au siège, mais blocus est un siège, mais tout de même d'une ampleur différente, et il va falloir, si vous avez des noms, eh bien, vous nous les signalez.